Culture. Reportage, Véronique Robérotte.
Il y a un délitement très important du service public, enfin de tous les services, pas que publics d'ailleurs, pour lesquels, en fait, en tant que maire, on nous attend partout.
Beaucoup d'administrations sur cette période Covid et confinement se sont fermées à l'accueil direct au public et n'y sont jamais revenues.
On a l'impression qu'on vient là, qu'on dérange. Je dis qu'aujourd'hui, eh ben, c'est un peu le système D, quoi.
C'est une bataille générale contre les services publics, la poste, tout, quoi.
Les services publics sont-ils toujours universels ? A-t-on accès à ces services partout en France de la même manière, quelles que soient nos ressources culturelles ou économiques, santé, éducation, justice, transport, sécurité ? L'image des services publics en France se dégrade, pourtant les Français y sont particulièrement attachés. C'est un lien fondamental entre les citoyens et l'État, mais un lien qui s'abîme, et les premiers à en souffrir sont les plus précaires. Cela se passe souvent de la même façon. D'abord la fermeture de la poste, puis des impôts, l'inverse, la gare, l'école. La disparition des services publics se fait toujours en cascade sur un même territoire. Et c'est tout ce territoire qui voit son écosystème bouleversé avec une population qui se sent hors-jeu, déclassée. Une succession de politiques publiques lancée à la fin des années 90 a eu pour objectif de rationaliser les moyens avec des indicateurs d'objectifs, une approche technique qui a laissé de côté le ressenti des usagers. Les liens se sont abîmés, il est encore temps de remettre de l'humanité. Service public, la grande fracture des territoires, c'est un reportage de Wafia Kenish. Bonsoir Wafia, vous avez donc choisi de tourner ce reportage dans les Côtes d'Armor en Bretagne, pourquoi ?
Bonsoir Véronique, bonsoir à tous. Oui, les Côtes d'Armor et en particulier Guingamp, parce que j'avais commencé par lire quelques articles dans la presse locale sur la fermeture de la maternité, un peu plus loin la future fermeture des urgences, à une demi-heure encore de voiture la fermeture du collège, et je me suis demandé pourquoi dans un même périmètre on arrivait à une situation, s'il y avait une situation particulière à observer, à regarder de plus près, notamment dans ce territoire rural, semi-rural. Voilà, donc c'est pour cette raison que je suis allée là-bas. Et effectivement, il y a cet enchaînement, ce que vous décriviez à l'instant, qui fait que ce lien, petit à petit, se détricote.
Alors, pour en parler, notre invitée est Mélanie Villiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez effectué pour le Conseil d'État une étude de terrain, vous aussi, publiée cet automne sur les services publics. Elle est intitulée « 12 propositions pour réussir le dernier kilomètre de l'action publique ». C'est, on peut peut-être en dire un mot, mais juste en un mot, c'est une première, cette étude de terrain ?
Alors c'est la première fois en effet que le Conseil d'État, pour mener une étude, allait faire un tour de France. Il nous a semblé que sur un sujet comme le sujet du dernier kilomètre de l'action publique, on ne pouvait pas le faire uniquement depuis les murs du Conseil d'État, du Palais Royal, mais qu'il fallait aller faire à nous aussi notre dernier kilomètre et aller sur le terrain.
Alors on en reparlera tout à l'heure. Avant cela, on va écouter votre reportage, Wafia, direction donc les Côtes d'Armor. Et tout d'abord dans une ville dont le collège fermera à la fin de cette année scolaire.
Alors le périple va commencer ici à Corlay. Corlay, c'est une petite commune qui est entre le nord et le sud de la Bretagne, assez loin des villes moyennes que sont Guingamp, Saint-Brieuc. Ici, le collège, donc c'est un enjeu important parce que les premières villes alentours sont au moins à une demi-heure. Et on va rencontrer Élodie Le Gall, qui fait partie du collectif de défense du collège, un des services publics importants. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Enchantée de vous rencontrer.
Eh ben, je suis venue à votre compte parce que du coup, quand vous étiez à côté, je me suis dit j'allais faire la visite des services publics au passage.
Vraiment ?
Ici à Corlay. Là, c'était la poste. Il y a un an qu'elle a fermé. Et donc depuis, on a une agence communale postale. Donc on a la mairie qui est à l'autre bout du village là-bas. Donc maintenant, il faut aller à la mairie ou alors à la supérette qui est là-bas. Mais donc ici, c'était, on dit encore la place de la poste devant la poste, mais il n'y a plus la poste.
Donc là, en fait, en face de nous, il y a une école, l'école Saint-Joseph.
Donc là, il y a une école privée. Okay. Et sinon, l'école publique, elle est juste de l'autre côté du bâtiment qu'est le collège.
C'est un grand collège et plutôt assez joli.
Oui, en fait, il est vraiment intéressant parce que là, on a les quatre bâtiments autour d'une cour carrée. On est soit en plein pied, soit sur un étage. Donc c'est super confortable pour les enfants, pour la circulation. Tout est à côté, tout se fait très vite. Et donc, quand on ouvre la porte, là, sous le préau, on se retrouve directement dans le gymnase. Et si on ouvre la porte et qu'on va à gauche, on rentre dans l'école primaire et il y a un travail qui se fait avec les enseignantes de l'école primaire depuis des années. Depuis 6 ou 7 ans, les élèves de CM1, CM2 sont venus faire les sciences au collège avec la classe de 6e. Et ça, ça se fait parce qu'il n'y a qu'une porte entre les deux. Donc là, c'est la sortie du collège.
Ils savent, les collégiens, que ça va fermer qu'il y a un
Ah oui.
On va leur poser la question. Bonjour, je suis journaliste pour la radio France Culture. Vous savez que le collège va fermer? Et qu'est-ce que vous en pensez de cette fermeture?
C'est assez nul parce que le collège est bien, tout le monde se connaît, il est petit, c'est familial.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est quoi les conséquences de la fermeture?
La vie du bourg, elle est fichue un peu parce que c'est un truc...
Les personnes qui habitent près d'ici, ça, c'est plus pratique pour eux d'aller au collège ici parce qu'ils habitent pas très loin comme ça pour aller à l'école, pour les voitures et tout, c'est, pour le trajet, c'est plus simple pour aller.
Mon petit frère, il rentre en 6e, il va devoir aller dans un autre établissement.
Il va prendre le bus, c'est ça?
Oui.
Merci beaucoup. Bon appétit.
Merci à vous. Bon appétit, les filles.
On va aller du côté de votre domicile. Donc en fait, vous avez eu coup sur coup la fermeture de la poste et un an plus tard, on va vous fermer aussi le collège.
Oui, ça fait beaucoup. J'habite ici.
Quand vous êtes venu vous installer ici, c'était quand d'abord et pour quelle raison?
Ça fait 2 ans que j'ai emménagé ici parce qu'il y avait un collège. J'habitais dans la campagne à 4 km d'ici, donc on était déjà dans le secteur. Mes enfants étaient scolarisés à l'école ici. Et donc avec l'entrée du grand au collège, on s'est dit que c'était important d'avoir de l'autonomie pour les adolescents et un confort de vie au quotidien pour eux. Et donc, on s'était dit que jusqu'à la 3e du plus jeune, ils auraient ça. Et donc, on se trouve bien ici. Et c'est vrai que tout est remis en cause maintenant. Parce que si on est obligé de prendre la voiture tout le temps pour conduire les enfants à droite, à gauche, s'il faut qu'ils se lèvent à 6h ou 6h30 le matin pour prendre le car, c'est pas le projet de vie qu'on avait fait en venant ici.
Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez appris la fermeture du collège?
Donc, moi, j'étais au conseil d'administration pour les parents d'élèves. Et donc, comme tous les membres du conseil d'administration, on a reçu un mail sans ordre du jour, sans aucune info, pour nous convier à une réunion le surlendemain avec le vice-président du conseil départemental, sans plus d'infos. Et donc, quand ils sont venus, c'était effectivement pour nous annoncer ça, dire « votre collège, il ferme à la fin de l'année prochaine ».
Avec une explication ?
Oui, il est petit. C'est un petit collège et le départ... Alors, une explication d'autant plus injuste et qui nous met en colère, c'est que l'explication, c'est que les prévisions démographiques à l'échelle du département montrent une baisse des effectifs d'enfants et d'adolescents. Et donc, ils ont fait une étude de démographie sur tout le département, tous les collèges. Les collèges publics, en 2035, sont censés perdre minimum 1300 élèves dans les Côtes d'Armor, par rapport à maintenant. Pas le collège de Corlay. Sur ces 47 collèges, il y en a 3 qui sont prévus à gagner des élèves d'ici 2035. Le nôtre en fait partie. Les 2 autres sont 2 autres petits collèges ruraux. Et donc, ils nous ont expliqué, il faut qu'on fasse une compression du bâti. Il faut qu'on tienne compte de cette évolution démographique. Donc, on va fermer votre collège parce qu'il est petit et puis qu'il y en a un autre pas si loin.
Pas si loin, ça veut dire combien de temps?
Justement, c'est la question du temps. Ils nous disent pas si loin, alors ils disent 8 km. Déjà, en vrai, c'est 9 km, donc c'est pas tellement honnête. Mais 9 km pour un adulte dans sa voiture, c'est pas 9 km pour un adolescent dans un car scolaire. Et donc, ils nous ont dit, soyez rassurés, aucun enfant ne fera plus de 45 minutes de transport. Donc, c'est un temps énorme, 2 fois par jour. C'est un service public qui est très, très largement dégradé.
Direction Ploirette, petite commune plus au nord, toujours dans les Côtes d'Armor. Dans ce bourg du Trégor, région historique de Bretagne, une bataille s'est engagée avec la direction de la Poste.
Bonjour, je suis Patrick Brément, je suis syndiqué Sud PTT, un des responsables de Sud PTT Côtes d'Armor. Je suis aussi un des responsables de l'Union locale solidaire, dont dépend Sud PTT, sur le Trégor.
Qu'est-ce qui va se passer dans les bureaux de poste tout près d'ici, entre Lannion et Guingamp?
La Poste a un projet de déplacement de facteurs. De Ploirette, ils veulent les emmener à Lannion. de Plestin à Morlaix et de Bédidentaire à Saint-Agathon. Donc il faut savoir que c'est des tout petits bureaux, on va dire historiques, des beaux bâtiments postaux financés par la mairie. Donc les trois mairies ont fait beaucoup de travaux ces dernières années. Et ils ne comprennent pas pourquoi on enlève les facteurs. Parce qu'il faut savoir que si on enlève les facteurs, il y a un guichet par bureau. C'est des guichetiers. Et si les facteurs s'en vont, le guichetier risque de s'en aller aussi. On a vu ça partout. Et à la place, on met un facteur guichetier. C'est un facteur qui fait une petite tournée. Et après, il tient le guichet. Sauf que ce n'est pas les mêmes guichets. Il n'y a plus du tout les services bancaires de la Poste. On ne peut retirer que 300 euros. Et il faut venir 5 jours avant si on veut 300 euros et pas plus. Donc c'est une catastrophe. Il y a eu plein d'exemples. On a supprimé des bureaux de Trégastel sur la côte de Granit Rose, qui est très touristique. Un bureau, il y avait plein de monde, ça a été supprimé. Les facteurs, c'est exactement le même souci. Les facteurs sont partis. Le guichet a été supprimé. On a mis une agence postale communale. L'agence postale communale, c'est la mairie qui paye la moitié du salaire du guichetier, alors que normalement, c'est la Poste qui doit payer le guichetier. Donc là, la Poste se défausse de 50% du salaire. Et un ou deux ans après, le facteur guichetier communal est supprimé, on met ça dans un petit commerce, et les gens ne peuvent plus retirer d'argent du tout. Il n'y a plus de poste. Et quand il n'y a plus de poste, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'école après.
Et ici, on se bat.
Dans le Trégor rouge, on se bat. Et en plus, le projet de la Poste, il y a les trois maires qui sont contre, il y a le sénateur qui est contre, le député local qui est contre. Pour moi, on devrait se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de bureaux de poste. Les gens attendent le facteur à passer. Ils disent bonjour quand on les voit. Mais des fois, ils sont inquiets parce qu'ils ne nous voient pas passer. Il y a une partie de courrier, on n'est pas passé, il fallait la laisser. Donc on passe pas, on passe un jour sur deux. Et la Poste fait de la pub partout. Le facteur va passer voir les gens, va aller voir les personnes âgées. Donc ça, c'est avant, il allait voir les personnes âgées gratuitement. Maintenant, c'est payant.
Donc on va transformer quelque chose que vous faisiez naturellement et gratuitement en un service payant.
Oui, un service payant, oui. Et on nous demande même de ne pas nous arrêter chez les gens. Si on n'a pas ordre de s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas boire le café, il ne faut pas... Bientôt, on ne pourra plus faire de calendrier, je ne sais pas. C'est une bataille générale contre les services publics, la Poste, tout. Quoi.
Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ?
En santé.
Annie Brasse-Denis.
La Poste a été un service public et continue à porter des missions de service public avec des aides de l'État pour ça.
Annie Brasse-Denis, maire de Ploirette.
Bon, le service du courrier est en recul, mais le service des colis est en augmentation exponentielle. Et puis, la Poste rend des services financiers à des populations fragiles, ce à quoi ne sont pas obligées les banques ordinaires. Et donc, en fait, quand on se bat pour maintenir un guichet postal, on se bat aussi pour le maintien de ce service-là. Mais aujourd'hui, la Poste est managée, en tout cas les managers de proximité là, qui nous proposent des réorganisations, ne semble pas intégrer les nouvelles notions de réduction des déplacements, d'intensité de vie dans un bourg, etc. Ça semble leur passer complètement au-dessus. Je suis maire depuis 2014, donc c'est mon deuxième mandat. Alors, sur le premier mandat, j'avais été confrontée à la fermeture de la perception. Et là, sur le deuxième mandat, les choses se sont encore beaucoup durcies. À la fois, il y a des choses positives, la Maison France Service, qu'on pourra aller voir tout à l'heure, et à la fois un délitement très important du service public, enfin, de tous les services, pas que publics d'ailleurs, pour lesquels, en fait, en tant que maire, on nous attend partout. Il n'y a pas très longtemps, l'inspectrice de circonscription appelle et demande à me voir. Je me dis, oh là, aurait-elle la mauvaise idée de vouloir fermer une classe ? Donc, j'osais à peine la rappeler, parce que je me dis... Et elle m'a dit, vous voyez, vous n'êtes pas dans le rouge, mais vous êtes dans l'orange. Et la prochaine fois, ça vous tombera peut-être dessus. Et elle me dit, ça n'est pas parce que les classes, elles fonctionnent bien, votre école, elle fonctionne super bien, mais si je ferme une classe dans votre école qui en a 7, ça se verra moins que si je ferme une classe dans une école qui en a 2. Pour la question du transport, en fait, à Ploirette, on a de la chance. On a une gare et qu'on a préservé de hautes luttes, puisqu'en fait, quand le TGV est arrivé en Bretagne, il n'avait pas du tout prévu de s'arrêter à Ploirette. Mais en fait, il n'avait pas compté sur la résistance des habitants. Et en fait, les habitants et les élus ont fait des manifestations, ont bloqué un nombre considérable de trains jusqu'à ce que la SNCF lâche.
Et elle a lâché.
et elle a lâché. Et donc, en fait, ça nous donne un caractère un peu résistant. Et quand on devient maire de Plouaret, parce que l'un de mes prédécesseurs, qui s'appelait Robert Lehec, il a été condamné pour entrave à la circulation des trains. Mais on sait que quand on devient maire de Plouaret, un jour, peut-être, il faudra s'allonger sur les voies. Eh bien, je le ferai. Chaque fois qu'il y a une difficulté, en fait, nous, on essaye de compenser et de pallier avec des contraintes budgétaires qui sont extrêmement lourdes.
Allez, Star. Bonjour, Chantal.
Le bourg de Plouaret, c'est un bourg assez intense. Donc la mairie, une place qui est faite pour vivre, les commerces. Et d'ailleurs, on a à Plouaret, on a ni rond-point, ni zone artisanale, ni zone commerciale. Donc tout se passe au centre-bourg, au centre-bourg ou à la gare. Voilà, on est toujours.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme service public sur cette place justement?
Alors on a la mairie, tout à côté la Maison France Service. On a
la médiathèque.
On a la pharmacie, c'est hyper important. Les boulangeries.
Les pharmacies, voilà. Les boulangeries qui sont des services publics.
Ouais, mais presque, parce que en fait, par exemple, dans les inquiétudes, quand on dit le boulanger doit partir à la retraite et il ne trouve pas de successeur, qu'est-ce que vous faites, Madame le maire? Donc voilà, c'est.
Et donc c'est à la maison communautaire.
Oui, qui appartient à l'Agnan-Trégor Communauté, que je vais vous emmener pour rencontrer.
C'est l'agglo, en fait.
C'est l'agglomération. Et là, vous allez rencontrer les personnels de la maison France Service. Bonjour.
Bonjour,
comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va bien. Et vous?
Bon, ça va aussi.
C'est vrai?
Ouais, ça va.
C'est vrai, vous veniez chercher quelque chose de particulier?
Non, oui.
Prendre un rendez-vous?
Ouais. Prendre un rendez-vous.
Avec qui vous aviez besoin d'avoir rendez-vous?
Avec la dame des impôts.
Ah là là, d'accord, c'est la période, ça commence à être la période.
C'est ça.
D'accord. Eh bien voilà, on est bien dans l'exemple où en fait, avant on avait une perception, maintenant on n'en a plus, et c'est grâce à la Maison France Service qu'on réussit à avoir accès. Et pourtant, théoriquement, vous avez l'âge où vous devriez être capable d'agir sur
Internet.
Hein.
Moi, je suis pas né avec ça.
La Nantes-Trégor Communauté, bonjour.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes passé par le point Info Habitat? Parce que maintenant, c'est eux, en fait, si vous voulez, nous, on va pouvoir vous accompagner sur la démarche numérique, mais pas sur la démarche, en fait, sur le côté technique, nous, on n'est pas technique sur MaPrimeRénov. Nous, on va pouvoir juste vous orienter sur la partie administrative numérique, sur l'ordinateur. Donc, en fait, avant, il faut que vous passiez voir le point Info Habitat. Est-ce que vous avez une fiche de liaison? Vous les avez rencontrés physiquement? Non. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un rendez-vous et puis... Non, mais on va arrêter de vous balancer d'un bord et d'un autre. Je vais prendre un rendez-vous et puis je vais les recontacter. D'accord? On va prendre un rendez-vous ensemble. Alors, du coup, moi, je suis Malorine Edelec. Je travaille dans les espaces France Service. Alors, on accompagne dans tout ce qui est démarche administrative, que ce soit en ligne ou papier. Donc, ça peut aller de la démarche CAF à une démarche carte grise, une démarche permis de conduire, une démarche pré-demande, impôts. Tout ce qui est des partenaires. Donc, on a 9 partenaires nationaux, donc, où on a des contacts privilégiés, où ils nous répondent un peu plus vite. Et ça nous permet des fois de pouvoir débloquer certaines situations plus rapidement et aux personnes aussi d'avoir un interlocuteur en plus physique. Et nous, ici, on a une population quand même de personnes vieillissantes. Bah, eux, ils ont toujours été habitués à l'humain.
Il y a aussi un vocabulaire administratif.
Ah oui, celui-là, oui. Bah, par exemple, les impôts, des fois, c'est un peu... Mais moi, non. Là, par exemple, le monsieur qui arrivait tout à l'heure, moi, je ne peux pas l'aider, en fait. Sa question, elle est technique. Et nous, on part du principe, nous, les agents France Service, on n'est pas technique sur les impôts. Parce que si on commençait à être technique sur tout, on n'est pas technicien des impôts, on n'est pas technicien de la CAF, et on n'est pas des magiciens.
En fait, vous êtes un relais, mais ensuite, c'est aux autres services publics de prendre ce relais.
C'est pour ça que nos contacts privilégiés auprès... je prends la CAF et la CARSAT en priorité, mais ils sont importants. Et notre relais avec eux est hyper important, quoi. Mmh. Et on a des super relations avec eux, ça se passe très bien, comme avec la sécurité.
Sauf quand eux-mêmes sont dépassés.
Ouais, quand eux-mêmes sont... Malheureusement, eux-mêmes, des fois, ils manquent de moyens. Et c'est pas de leur faute, en fait. C'est même pas contre les agents, c'est... Voilà, c'est sociétal et on peut rien y faire, quoi.
À 20 minutes d'ici, par la départementale, j'arrive à Lannion. 11 000 habitants, toujours dans les Côtes d'Armor. Je vais rencontrer un comité de défense de l'hôpital. Un groupe d'habitants prépare une manifestation contre la fermeture des urgences. Pas seulement pour le principe, mais aussi parce qu'ils connaissent les conséquences concrètes d'un désert médical.
Je suis Anne-Marie Durand et je suis à l'origine de la création du comité de défense du centre hospitalier Lannion-Trestel et de l'accès aux soins dans le Trégor en 2016. Mon mari avait des symptômes un peu particuliers, bizarres, du genre digestif, on va dire. Et il est allé voir deux fois son médecin traitant, à une semaine d'intervalle, qui, par une chance phénoménale, avait un appareil à faire les électrocardiogrammes. Donc tout de suite, il s'est mis en relation mail avec la cardiologue de notre hôpital local, là, qui l'a hospitalisé en urgence. Et en fin de compte, il a eu quadruple plantage. Mais comme il y avait un délai d'attente pour les interventions cardiaques en Bretagne de 3 semaines, il a été envoyé à Pitié-Salpêtrière à Paris, depuis Lannion. En fin de compte, il a été transféré avec une ambulance normale, sans accompagnateur, sans rien. Sachant que l'infirmière du service a cherché un ambulancier acceptant le transfert toute la soirée du mardi soir, et quand elle est revenue le lendemain matin, toute la matinée, pareil, pour trouver un ambulancier qui accepte de faire ça. Là, lui, il a eu de la chance d'avoir cette collaboration entre le médecin de ville et la cardiologue. Mais étant donné la charge de travail du service de cardiologie ici et le manque de cardiologues dans un avenir proche, on peut penser sans problème qu'il y aura des morts par manque de moyens, quoi.
Bonjour.
Vous êtes en avance.
16h30.
Ah oui, d'accord. C'est nous qui sommes en retard. Bon, c'est le début. Bonjour. Du CA, là.
Dis donc, Sébastien, délégué syndical CGT pour le SDIS, les pompiers. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que vous avez une maison médicale qui est ouverte en soirée avec des urgences régulées. La maison médicale est dans le hall de l'hôpital, hein, ni plus ni moins, à 20 mètres de la porte d'accueil des urgences. Et on nous engage, nous, véhicule d'incendie et de secours, après régulation par le médecin du SAMU qui, avec son collègue opère à la maison médicale, demande à transporter une victime sur Guingamp ou Paimpol. Donc on va des fois... Les services d'incendie, les pompiers vont dans à la maison médicale de l'hôpital de Lannion chercher une victime pour la faire visiter par un médecin urgentiste à Paimpol ou à Guingamp. Et après, elle revient à l'hôpital de Lannion, en médecine générale. Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'économie, c'est à fond perdu, quoi. On perd de l'argent tous les jours. Il y a un autre aspect là, qu'on soulève, là, c'est... Il y a une régulation médicale qui est faite la journée, avec ce qui a l'air d'augmenter, avec des départs différés. C'est-à-dire que vous avez des gens qui appellent pour des pathologies, et on n'engage pas de suite les secours. Mais ce qui se passe, c'est qu'en différant notre intervention ou l'intervention de transporteurs sanitaires privés, les urgences, elles, qui potentiellement étaient ouvertes, se retrouvent fermées, et on se retrouve à envoyer des gens... Alors j'ai eu le cas l'autre jour, une personne qui a appelé à 16h, et on nous demande de la transporter à 21h. Mais c'est plus pareil, puisqu'il a fallu qu'on aille à Paimpol. Alors que en l'espace d'une demi-heure, mon intervention était réglée, moi, en journée. Et c'est compliqué. Tout est devenu compliqué à cause d'une régulation des urgences.
Je reprends la 4 voies, pleine ouest, vers Guingamp, à une demi-heure de Lannion. Ici, la maternité a fermé et les urgences sont d'ores et déjà régulées et donc fermées certains soirs. Pas tous, fort heureusement pour Peggy Corbel, que je rencontre au bar des sports en plein centre-ville.
Alors, je suis dans le cadre de mon métier de fleuriste. Je me suis blessée avec un vase en verre qui était ébréché et en voulant le mettre au rebut, il s'est fracassé et il a explosé sur ma main. Donc j'ai eu l'artère, le nerf et le tendon sectionnés. Évidemment, c'était très impressionnant parce que l'artère sectionnée, c'est des quantités énormes de sang et ça va très très vite, c'est des geysers. Hein. Donc les pompiers de Guingamp sont intervenus très rapidement Ensuite, ils m'ont envoyé directement aux urgences à Guingamp. Les urgences étaient ouvertes, puisque parfois elles sont fermées du fait des régulations. Donc il y a des jours où elles sont fermées, le soir à partir de 19h ou 20h. Donc ça complique énormément la situation, puisque c'est des urgences à Guingamp. Et le secteur, autrement, c'est Saint-Brieuc, Lannion, Pontivy, Morlaix.
Donc ça veut dire une demi-heure de route.
Exactement, une demi-heure de route. Donc les urgences étaient ouvertes ce jour-là, et heureusement, les chirurgiens qui exercent à Guingamp devaient sortir d'une intervention déjà, étaient déjà sur place aux urgences, et donc ils ont pu me prendre en charge tout de suite pour suturer l'artère, parce que l'artère était sectionnée, donc j'ai dû perdre 2 litres de sang à peu près.
Que se serait-il passé si les urgences avaient été fermées, comme c'est le cas régulièrement à Guingamp ?
Je serais morte.
Par la suite, si on a des missions qui vous intéressent, ce serait de nous envoyer un CV à jour.
Des enjeux de vie et de mort, mais aussi des difficultés du quotidien pour accéder aux services publics, perçus comme trop compliqués par la population, y compris par les plus jeunes. Je suis toujours à Guingamp et ce matin, je rencontre un groupe de jeunes habitants venus suivre un atelier de recherche d'emploi à la mission locale.
Moi, dis-toi, si je n'ai pas ma mère qui m'aide déjà aujourd'hui, comment je fais?
Je m'appelle Noélie, j'ai 19 ans, j'habite à Guingamp depuis 18 ans. Et là, actuellement, du coup, je suis en recherche de boulot pour rentrer dans une formation en alternance sur Morlaix.
Moi, depuis que je suis ici, je vais voir les gens pour leur demander s'ils ont assez de services publics, de transport, de facilité pour être à l'hôpital, pour... l'école, est-ce qu'il y a des classes qui ferment ou pas? De votre point de vue à vous, du haut de vos 18 ans, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de services publics?
À l'heure d'aujourd'hui, sur Guingamp, non, je trouve pas assez. Déjà, par rapport aux bus, c'est vrai que le transport des bus, c'est assez compliqué sur Guingamp. C'est mal desservi, c'est pas desservi partout. Et les horaires sont quand même très différentes. Et si on a un rendez-vous, soit on y va à pied, soit on y va en voiture. Mais en bus, c'est assez compliqué, quoi, en général. Les hôpitaux, on n'en a qu'un à Guingamp et les urgences sont fermées le soir. Donc c'est la maison médicale, mais quand on va à la maison médicale, y a 30 personnes, donc on attend 8 heures. Donc c'est très très long. Après oui, ça reste quand même une ville, entre parenthèses, à mes yeux, morte, quoi. C'est une ville morte, quoi.
Quand vous avez des papiers à remplir, et je pense qu'à l'âge que vous avez, vous en avez beaucoup à faire, ça se passe sur le numérique. On dit toujours que c'est les vieux qui ont du mal avec ça. Est-ce que c'est que les vieux qui ont du mal avec ça?
Non, parce que tous les papiers, des fois, sont pas simples à faire. Par exemple, les papiers pour le permis. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à les faire parce que c'est très, très dur à faire. On nous explique pas forcément comment bien les faire. Il y a des papiers même pour Pôle emploi, des choses comme ça. C'est jamais simple, quoi. En fait, si on a personne dans notre entourage qui s'y connaît, c'est super dur, quoi, franchement. Faut s'orienter vraiment vers des gens qui s'y connaissent ou vers des mairies, des choses comme ça, où il y a des gens qui peuvent nous aider, quoi.
Et encore faut-il trouver quelqu'un?
C'est ça. Après, je sais qu'il y a, par exemple, la mission locale qui peut aider pour faire les papiers. Il y a la mairie de Guingamp aussi. Il y a quelqu'un qui travaille à Plumagoire pour nous aider à faire les papiers. Après, dans les pôles emploi, je pense aussi. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours simple, quoi. Surtout dans les toutes petites villes.
Est-ce que vous avez renoncé à certains droits, à certaines choses, parce que vous n'arriviez pas à remplir certains documents?
Pas forcément, parce que je vais dire que j'ai la chance d'avoir quelqu'un de ma famille qui s'y connaît dans tous les papiers, donc c'est plus simple vis-à-vis de cette personne-là qui m'aide quand même, mais pour d'autres personnes, ouais, ça peut être...
C'est arrivé pour des amis à vous?
Ouais, totalement. Des fois, ils me disent, mais comment t'as fait? Est-ce que tu peux m'aider? J'arrive pas, tout simplement, quoi. Ouais. C'est dur de voir ça.
Et c'est difficile d'avoir quelqu'un au téléphone?
Ouais. Moi déjà, Pôle emploi, France Travail, pour rentrer en contact avec eux, c'est super dur, quoi. J'ai fini ma formation, j'ai voulu avoir un rendez-vous avec ma conseillère et cette personne-là ne m'a jamais répondu. J'ai relancé. Du coup, je suis passée par la mission locale, j'ai fait, ça sera plus simple et ça ira plus vite, quoi. Parce que au moment où on me répond pas, j'ai besoin d'aide, me laissez pas comme ça, quoi.
Et ça, c'était par mail, en fait?
C'est ça. Et par téléphone, on ne peut pas les avoir. Il y a plein de gens, c'est comme ça aussi, des gens qui n'ont pas connu forcément le numérique ou qui n'arrivent pas tout simplement. Ça doit être un enfer, je pense.
On est au centre social de Guingamp. et on va assister à des entretiens et rencontrer des habitants qui viennent ici pour remplir certains papiers, faire des demandes sur leurs droits et puis surtout qui manifestement sont un peu perdus.
Tout à l'heure, si tu me remettras tous les trucs.
Ah, si tu veux, si tu veux.
Oui. Donc, on était nous en train de regarder un petit peu comment scanner. Avec son smartphone. Donc je vais pour désinstaller une application. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu comment on désinstalle.
Ouais, non, pas trop.
Ouais, c'est normal. C'est pareil, on peut pas l'inventer. En fait, il faut rester appuyé 2 secondes, ça suffit, sur l'application. Et là, je vois info appli ou désinstaller. Et ben, je vais toucher.
Je vous interromps une seconde. Vous appelez comment, monsieur ?
Jean.
Vous comprenez comment utiliser votre smartphone ?
Pas trop, mais c'est pour ça que je viens ici.
Pour faire quoi, dites-moi ?
Mais pour apprendre un peu plus, quoi.
Vous en avez un depuis combien de temps ?
Le smartphone, là ?
4 mois ?
Ça, non, ça,
3 mois, peut-être 3 ?
Ouais, non, à Noël.
Ah, non, Noël.
Ouais, à Noël, il a même pas 2 mois, là, quoi.
Ah, ouais.
Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté, en fait ?
Auto.
C'est pas une exception.
Ouais, ça arrive assez régulièrement, c'est classique si je puis dire.
Catherine, conseillère numérique au centre social.
Malheureusement, bah oui, faute de pouvoir aller sur son espace justement personnel, de telle ou telle structure, telle ou telle administration, bah, c'est vrai que des fois, y a des droits qui sautent, quoi. Bah, je dirais c'est classique. C'est-à-dire qu'il y a 2 difficultés, il y a et le numérique et l'administratif en fait. Donc le numérique est venu récemment se greffer dessus, qui fait que bon bah ouais les gens n'ont pas encore le réflexe quoi hein, de bah, d'aller régulièrement sur son compte CAF, sur son compte ANTS, je sais pas moi, sur son compte Amélie surtout je dirais, les impôts tout ça, il faut avoir maintenant le réflexe d'aller de créer son compte partout quoi en fait.
Je vais m'en appeler là. C'est peut-être pas pour toutes les administrations mais certaines. On a l'impression qu'on vient là, qu'on dérange. Même si c'est pour un renseignement, même si c'est pour déposer un document, un dossier. Non, je regrette. Moi, je suis venue aujourd'hui à la CAF là, pour demander si on serait éligible à l'APL parce que notre loyer va augmenter. On a été reçus vite fait. Hein. Elle m'a dit, soit vous faites une simulation sur, par Internet, oui, par mail, ou alors vous remplissez un dossier. Mais c'est tout, c'est tout. Je suis ressortie, j'ai rien su de plus, quoi. On m'a pas dit si j'étais éligible, ils n'ont pas fait une simulation, rien. Comme ça.
Ils vous ont donné quoi ? Ils vous ont donné un dossier à remplir ?
Un dossier de 5-6 pages à remplir, voilà.
Il faut plein de pièces ?
Bah oui, en plus. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un peu le système D, quoi. Moi, je trouve que maintenant, on ennuie tout le monde. On ennuie.
Et en fait, à chaque fois que vous vous inscrivez quelque part, à chaque fois que vous faites une demande quelque part, on vous demande un mot de passe, une adresse mail.
Tout le temps, il faut que des papiers. Pour toucher quelque chose, il faut des papiers.
Mais vous avez un ordinateur ?
Non, moi j'en ai pas. J'en ai pas. Quand j'ai besoin, quand il y a des problèmes, je viens ici, on le fait, voilà, c'est tout.
Quand vous parlez de code, c'est vrai qu'on nous demande un code à n'importe quelle opération qu'on fait. Mais il faut qu'on les marque quelque part, hein, parce que il faut s'en souvenir. Hein.
J'ai l'impression d'être des pions partout, de toute façon, on est numérotés.
Ah ben, c'est fatigant, quoi. Je m'excuse, mais je vais servir le café.
Je vais aller laver ma tasse.
Bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez ?
Non.
Non ?
On vient pas ici souvent. Je viens pas ici souvent. Clarisse.
Bonjour Laurence.
Donc il y a des gens, c'est ce qu'on évoquait avec Clarisse il y a un instant, il y a des gens en fait qui laissent tomber.
Moi, j'ai laissé tomber. Ouais, il y a des. Notamment pour les cartes grises, je me suis fait avoir, c'était une arnaque et je m'en suis pas rendu compte. J'ai payé, bon c'était pas trop, c'était 20 euros à l'époque et j'ai laissé tomber.
Parce que, expliquez-moi.
Eh bien, au départ, c'était un site, je pensais que c'était le bon site pour les cartes grises. Donc il y avait le logo République française, machin et tout, ministère de l'Intérieur. Donc ben voilà, il faut payer, ben moi je paye. Mon fils était à côté, il me dit mais n'importe quoi, faut pas payer pour les scooters, tu connais pas, voilà. Bon. Et puis ben après, voilà, je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Et je n'arrivais pas à m'en sortir, puisque à chaque fois il manquait un papier, et à chaque fois qu'il manquait un papier, il fallait repayer. Il fallait payer tout le temps. Et j'ai dit, ben je laisse tomber, j'ai tout annulé, donc ben, j'ai perdu mes 20 euros, mais c'était que 20 euros. Et puis ben du coup, ben, ça s'est jamais fait. Voilà.
Et Vous n'avez pas trouvé un guichet, un endroit où aller pour le faire?
Bah, faut payer. Enfin, je crois qu'il faut payer. À Lannion, il y en a un, je crois.
Ouais.
Mais il me semble qu'il faut... Il faut voilà. Et puis...
Ouais,
il faut payer, ouais. Ouais.
Des usagers qui se sentent incompris, parfois maltraités. Et surtout perdus, comme l'explique Corinne Leroy, du Centre communal d'action sociale, où elle reçoit les habitants les plus fragiles socialement pour les aider dans leur démarche.
J'ai l'impression qu'ici, on n'a pas un manque de services publics, mais une difficulté d'accès aux services publics.
Difficulté d'accès aux services publics, oui, qui est devenue plus visible après la période Covid et confinement, puisque beaucoup d'administrations sur cette période-là se sont fermées à l'accueil direct au public et n'y sont jamais revenues, ou uniquement sur des rendez-vous. Sauf que la prise de rendez-vous, elle se fait via Internet, donc de façon dématérialisée, et que c'est pas toujours simple pour les gens. Ce qui paraît simple pour ceux qui sont à l'aise avec Internet, l'informatique en général, ou parler au téléphone, c'est compliqué pour des gens qui sont démunis déjà matériellement, puis parfois aussi culturellement, qui sont pas forcément à l'école ici, ou qui sont très mal à l'aise avec toutes les termes qu'on peut employer quand on est au téléphone ou qu'on tombe sur des machines qui vous disent d'appeler le 1 pour avoir tel interlocuteur. Enfin, les gens ne tiennent pas, s'impatientent et ne comprennent pas tous. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'accès, effectivement, il y a une inégalité. Il y a des gens, ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, ils ne peuvent pas.
La question du non-recours, c'est quelque chose que vous observez ?
Oui, je pense au niveau santé, ça c'est quelque chose qui a pu être observé, en discutant, en échangeant avec les collègues, pour les personnes âgées, qui ont des tout petits revenus et qui pourraient avoir un complément, même pas eu l'information, tellement isolées qu'elles ne sortent plus de chez elles, je pense qu'elles sont totalement déconnectées de notre société, c'est facile en fait d'être oubliée, de se faire oublier, C'est parfois en demandant une aide alimentaire qu'on peut se rendre compte que la personne n'a pas fait valoir tous ses droits. Il n'y a même pas eu de... Voilà.
Ce que vous me racontez, toutes et tous, c'est une aggravation des inégalités sociales du fait même de ces disparités d'accès aux services publics.
Oui. Moi qui ai commencé à travailler dans le social depuis bien longtemps, là, depuis 25 ans maintenant, je pense, j'avais l'habitude de rentrer en contact direct avec les administrations et les services publics, négocier les choses, présenter les gens, faire en sorte qu'ils soient reçus, préparer le rendez-vous en disant attention, cette personne va vous allez la trouver un petit peu énervée, mais en fait c'est sa façon d'être, c'est pas quelqu'un d'agressif, prenez le temps, on prépare les choses. Là, on ne peut plus faire ça. C'est terminé. Parce qu'on n'a plus les gens en direct. Et on n'a pas de retour non plus, souvent, des professionnels, comme c'était le cas. Enfin, on se parlait. Là, je vois les collègues assistantes sociales du département, la maison du département à Guingamp, mais je pense que c'est comme ça un petit peu partout en France. C'est impressionnant le nombre d'assistantes sociales qui s'en vont. Donc, en termes de manque de moyens et de bras qui baissent là, on a parfois du mal à continuer à y croire, à se battre pour les personnes pour lesquelles on travaille. Hein. C'est difficile.
Toujours dans les locaux municipaux, je rencontre Philippe Le Goff, le maire de Guingamp. L'élu a bien conscience que ses services restent parmi les seuls guichets encore ouverts et que ses administrés ont tout particulièrement besoin de ces services publics.
On a un taux de pauvreté important, on a un niveau de revenus par habitant selon le seul quartier qui est inférieur à 700 euros mensuels. On a une part de personnes qui sont allocataires qui est important, la place des allocations adultes handicapés, des familles monoparentales. On a pratiquement tous les critères qui sont un peu rouges, ce qu'on appelle sur le niveau scolaire, des indices de positionnement social qui viennent quelque part compiler à la fois la CSP, la Caisse socio-professionnelle de la famille, mais la capacité culturelle, la capacité à aider les enfants. On a globalement tous ces indicateurs qui sont hélas dans le rouge. Donc cette question de trouver des solutions pour ces personnes-là, elle est plus urgente. Si on n'arrive pas à donner des réponses, globalement les choses vont de mal en pis.
Ces services publics, effectivement, ils sont utilisés principalement par les personnes qui sont le plus en difficulté.
Aujourd'hui, la question de la redistribution est posée à travers ça. C'est-à-dire qu'on vient adresser à nos concitoyennes et concitoyens un message qui considérait qu'il faut, si on est un bon politique, baisser les impôts, baisser sa contribution à l'État. Et puis on se rend compte un jour que la question de la défense est importante pour un pays comme la nôtre. On se rend compte effectivement que la question du soutien à telle ou telle entité est importante pour nous. Donc je trouve qu'au niveau national, le politique n'arrive plus à embarquer tout le monde. Et plutôt que d'embarquer tout le monde, il vient s'adresser aux uns et aux autres en leur donnant cette complainte qui consisterait à leur dire qu'ils contribuent déjà bien trop et on va essayer, si on est un bon élu, à faire en sorte qu'ils contribuent encore moins. Et puis on voit bien qu'in fine, on ne fait que déconstruire un système de solidarité, un système qui permet à chacun de pouvoir avoir un enseignement de qualité ou de pouvoir continuer à avoir une aspiration à être dans la non-assignation sociale. On voit bien que à continuer à vouloir baisser les contributions, on casse ce qui lie les individus entre eux dans une solidarité qui devrait faire partie de notre base commune. Notre concitoyen, il le voit ça. Il comprend bien qu'aujourd'hui, à chaque fois, on vient le voir pour le dire, on va faire une rationalisation. Et que derrière cette rationalisation, on lui dit que rien ne va changer, ça va même être mieux. Et que dans la réalité, il va être délaissé et il se retrouvera face à son ordinateur ou face à un mur pour trouver des solutions à ses problèmes.
Service public, la grande fracture des territoires, un reportage de Wafia Kienich, réalisation Annie Brault.
Grand reportage, Véronique Robérotte.
Avec nous dans ce studio, Mélanie Villiers. Alors, on vient d'écouter le reportage de Wafia. Ça ressemble à ce que vous avez observé vous, sur le terrain pour documenter votre étude pour le Conseil d'État. Je dirais qu'à vos hochements de tête, peut-être que oui quand même.
Oui, j'ai trouvé le reportage très fidèle à l'appréhension qu'on a pu avoir du terrain, de notre Tour de France, et puis de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, qui sont venues aussi jusqu'à nous au Conseil d'État. Peut-être ce que je peux dire, c'est qu'on a aussi entendu, voilà, vous avez entendu beaucoup d'histoires difficiles, mais dans ce Tour de France, on a aussi entendu un certain nombre de belles histoires, de solutions, qui ont beaucoup nourri nos travaux et nos réflexions. Voilà, donc on sort, nous, de notre Tour de France avec un regard lucide sur les difficultés, mais aussi avec quand même une dose d'espoir.
On en a parlé au début de cette émission, mais l'étude du Conseil d'État s'intitule « 12 propositions pour réussir le dernier kilomètre de l'action publique ». Ça veut dire quoi, ce dernier kilomètre ?
Alors, c'est un terme qui vient au départ de la logistique. En logistique, le dernier kilomètre, c'est finalement s'assurer que la marchandise ou le service que vous avez commandé, il arrive le plus rapidement possible, au moindre coût, à la personne qui l'a attendu. Et donc, on s'est dit, comment ça s'applique, ça, au service public, finalement ? Comment, quand le politique décide d'une réforme, comment cette réforme atteint en effet les gens, quand l'État, les collectivités locales décident de mettre en place un service public, comment en effet ce service répond finalement aux attentes de nos concitoyens et comment est-il efficace. Donc au fond, on s'est mis derrière les lunettes des usagers pour finalement interroger l'efficacité de l'action publique.
Wafia.
Et vous aviez, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette étude ? Dans quel contexte vous avez décidé de faire cette étude ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que on sortait de la période du Covid et au Conseil d'État, on a eu une activité intense, vous savez, dans cette période-là. Et au fond, ce qu'on a observé, c'est de la part des administrations, une immense créativité. Et finalement, il y a eu des contraintes imposées à nos concitoyens, mais il y a eu aussi pas mal de souplesse, d'assouplissement mis en œuvre. Et le point de départ, ça a été de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on en a tiré de cet exercice, enfin de ce moment très important dans notre pays. Ça a été un des éléments du point de départ. Et puis par ailleurs, c'est un sujet qui était un peu dans l'air du temps, finalement, l'efficacité des services publics. Et voilà. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de se poser la question. C'est vrai que c'est la première fois qu'une institution, finalement, s'intéressait en tant que telle au sujet. Et donc, ça a nécessité pour nous de travailler avec plein d'acteurs, plein d'administrations, plein d'acteurs de terrain pour essayer de bien comprendre les choses, parce que c'était un peu nouveau, finalement, de se poser la question du dernier kilomètre.
Alors, ça n'a pas l'air d'être du luxe d'aller voir les gens, parce qu'il y a quand même ce sentiment qu'une décision de fermer dans une commune, un collège, une maternité, bien, est pris de façon complètement déconnectée de l'utilisation de tous ces services publics. Ça a l'air de tomber du ciel, en fait, pour la population. C'est irrationnel.
Alors, je sais pas si on... Alors, le ressenti est celui-là. C'est évident. Il y a un ressenti d'avoir l'impression que, finalement, le ciel tombe sur la tête. L'expression est très juste. Bien souvent, c'est des décisions qui sont quand même le fruit d'arbitrage, de choix. Et au fond, toute la question, et c'est une des questions qu'on s'est posées dans l'étude, c'est quand on prend une décision de politique publique, comment on la prend finalement? Et est-ce que, et ça fait partie des propositions qu'on fait, est-ce que on écoute assez? Au moment où on prend ces décisions, on écoute d'une part les usagers des services publics, mais aussi les agents des services publics qui sont au contact et qui du coup sentent bien les choses. Donc c'est fait parfois, c'est moins fait parfois. Et donc voilà, ça peut nourrir quand c'est moins fait ce sentiment effectivement de décision qui tombe.
Peut-être. Ce qu'il manque, c'est la complémentarité. Alors moi, j'ai discuté avec plusieurs chercheuses, notamment Clara Deville, qui est chercheuse à l'INRAE, et en fait, c'est comme si cette tentative de rationalisation, elle avait écrasé tout le reste. C'est-à-dire que vous parlez du ressenti, le ressenti, il est évoqué par les personnes qui sont dans ce reportage, et pourquoi pas l'un avec l'autre? On a l'impression que c'est pas possible de penser à ces deux jambes.
Alors, on a essayé de comprendre, parce que vous l'avez dit, finalement, il y a un phénomène de rationalisation qui a touché les services publics depuis une vingtaine d'années, grosso modo. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Un premier élément, c'est que au milieu des années 90, l'État s'est dit qu'il souhaitait avoir une logique d'être un État stratège, c'est-à-dire de penser loin. Ce qui, en soi, est franchement une chose pertinente. Mais la façon dont ça a pu être fait parfois, c'est qu'on a déconnecté la conception des politiques, de ceux qui exécutent. Et au fond, quand on déconnecte, on perd cet effet d'aller-retour. Et l'exemple qu'on a beaucoup décortiqué dans l'étude, dont on voit un éclairage à travers les hôpitaux, la façon dont on a traité la démographie médicale. Je ne vais pas refaire, ça demanderait peut-être des développements, mais on a analysé qu'en fait, on avait d'une part des syndicats de médecins qui souhaitaient maîtriser l'offre de médecins, d'autre part l'assurance maladie qui souhaitait maîtriser les dépenses, et puis à côté un État qui, voyant deux acteurs se mettre d'accord, c'est pas dit, est-ce que ces deux acteurs, ils ont bien pris la mesure de la situation et du fait que les jeunes générations de médecins, elles voulaient avoir une vie différente. Et au fond, ça produit le fait qu'on a réalisé un peu trop tard qu'il fallait remonter le numerus clausus. Voilà, et donc ça, c'est un État qui a été stratège, mais pas complètement stratège, en fait. En tout cas, mais parce qu'il a perdu cette capacité. Il a voulu voir loin, mais il a perdu, peut-être dans cette dimension-là, un peu le contact avec le terrain ou d'autres acteurs que des acteurs peut-être institués.
Avec la fermeture des guichets, on voit bien que les administrés prennent une partie du travail qui est autrefois assuré par des agents des services publics, ce qui est un frein pour beaucoup de personnes, on l'entend bien, avec une difficulté pour comprendre un vocabulaire un peu technique, administratif, pas forcément facile à appréhender. C'est trop complexe maintenant.
Alors, je suis pas sûre que ça soit aujourd'hui plus complexe que ça n'a été dans le passé. L'administration a son langage, comme l'entreprise a son langage, comme finalement tout, Voilà. Mmh. Tout le monde a un peu son langage. Et la société, et c'est un constat qu'on fait, est aujourd'hui un peu plus complexe finalement. Et donc l'administration a voulu, dans ces dernières années, certainement chercher à trouver des solutions, des politiques publiques, des prestations qui collent exactement à des situations particulières. Et donc en fait, du coup, on a une multiplicité d'outils. Donc ça part d'un
Bon sentiment.
Ça part d'un bon sentiment. Donc voilà, nous, on n'est pas manichéens dans l'étude. On dit pas voilà, l'administration est devenue folle. Pas du tout. Elle a voulu faire bien. Mais parfois, quand on veut faire bien, ben on précisément, on oublie le dernier kilomètre, on oublie le petit grain de sable qui va bloquer. Ensuite, effectivement, la question du langage, elle est hyper importante, parce que il faut pouvoir être compris dans les contacts qu'on a eus. On a eu par exemple un contact avec un président de tribunal judiciaire qui nous avait raconté qu'il avait rencontré des usagers et qui étaient très mécontents parce qu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas de soutien pour les victimes dans son tribunal, et il leur a dit, mais écoutez, dans le hall d'accueil, j'ai un bureau d'aide aux victimes, il est vraiment dans le hall, c'est à votre disposition. Et en fait, il a réalisé en parlant avec ses usagers de la justice qu'en fait, nulle part dans le hall, il y avait marqué bureau d'accueil des victimes, mais il y avait marqué partout BAV. Et en fait, il a juste réalisé que ce BAV, qui pour lui était évident, en fait, l'était pour personne. Et donc, ça l'a invité, partant de là, à lancer toute une série de questionnaires aux usagers. Il a mis en place un comité des usagers dans son tribunal. Du reste, c'est une initiative totalement inédite au niveau national. Voilà, mais ça montre que finalement, ce contact avec l'usager, la confrontation ou le regard qu'on peut échanger avec l'usager, il peut permettre de réaliser qu'il y a un problème et trouver la solution.
Mais je relance ce que disait Véronique tout à l'heure, c'est-à-dire que une partie des documents, qu'ils soient numériques ou papier, sont bel et bien remplis, doivent être remplis par les usagers eux-mêmes. On prend l'exemple des prestations sociales. Pour le RSA, par exemple, il y a tout un tas de pièces à donner, à fournir, et sans même parler du non-recours, ça met un délai énorme pour ces personnes qui en ont le plus besoin. Donc ça éloigne aussi par le temps, c'est pas forcément nos recours, hein, ça sera au bout de 6 mois, 1 an, mais ça les met, ça les éloigne de leurs droits en fait.
Alors c'est vrai que l'administration a sa complexité, que les normes ont leur complexité, et ça, je vais pas dire l'inverse, hein, on le relève dans l'étude très nettement. Cette complexité, elle se traduit en temps perdu par les personnes, par les entreprises, par les collectivités, et elle se traduit aussi en une forme de non-recours qu'on chiffre également, enfin qu'on essaie de chiffrer dans l'étude. C'est difficile de chiffrer le non-recours. Il y a certaines administrations qui s'y prêtent, par exemple les caisses de retraite estiment qu'il y a à peu près 10% des personnes qui pourraient avoir droit à une pension de réversion qui ne la sollicitent pas. Pourquoi ? Parce que c'est dans des moments de la vie où vous êtes fragile, voilà, vulnérable, et vous n'avez pas les ressources, comme vous le disiez justement, pour faire toutes ces démarches administratives, donc vous ne le sollicitez pas du tout.
Ça chiffre très vite tout ça. Hein,
ça chiffre même. Vite, mais en fait, ce que je voulais souligner là, c'est que parce que cet effort a été fait, il y a des solutions qui ont été trouvées. Donc dans notre petit Tour de France, on l'a observé, c'est notamment les caisses de Lyon, qui partant de ce constat, en se disant quand même, il y a 10% des bénéficiaires qui ne bénéficient pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien, qu'est-ce qu'ils font à Lyon dans les quelques jours qui suivent le décès d'une personne, ils appellent le conjoint qui reste vivant pour lui proposer un coup de main, en fait, pour lui dire voilà, votre situation est compliquée, mais on peut vous aider dans votre démarche. Et donc ça, c'est un message qu'on passe fortement dans l'étude, dans nos recommandations, dans nos 12 recommandations. Il y a au fond cette idée que il faut pouvoir accompagner les usagers qui rentrent pas dans les cases. Et qui du coup ne se saisissent plus du service public,
sont au radar.
Donc des exemples comme ça, il y en a, et donc voilà, nous on a voulu mettre un peu le focus aussi sur les bons exemples pour qu'ils donnent des idées à d'autres.
Il faut rouvrir des guichets. C'est votre de vos conclusions ou pas?
Alors On l'a pas formulé comme ça, en fait. Ce qu'on a plutôt dit, c'est qu'il faut des personnes pour parler aux personnes, qui est un enjeu de proximité, et que ce contact, il peut se faire par le téléphone. Et depuis la Covid, d'ailleurs, il y a un très fort regain du téléphone. En 2022, le Conseil d'État, dans sa casse-tête, juge, a pris une décision un peu fondatrice à propos des guichets de préfecture pour dire que dans cette gestion des guichets, notamment en ligne numérique, auxquelles des usagers, des étrangers n'avaient plus accès, qu'il fallait pouvoir trouver d'autres voies d'accès, et notamment que ça soit l'accueil physique. Alors, ça peut être utile d'avoir de l'accueil physique, en effet, et puis des guichets téléphoniques, ça c'est très important.
Mais c'est vrai que maintenant, avant, on n'avait pas besoin de prendre un rendez-vous, par exemple, pour aller quelque part. On voit que c'est un frein, ça, d'avoir effectivement... finalement à pas avoir une réponse tout de suite aux questions qu'on se pose, et cette histoire de rendez-vous un peu lointain.
Alors tout à fait, ça c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2010 à peu près, on l'analyse dans l'étude, la CAF en 2015 a un peu systématisé ce système de rendez-vous pour faire face aux contraintes finalement, et puis aussi pour pouvoir mieux répondre aux gens. Enfin, le rendez-vous c'est pas forcément mauvais en soi, ça, quand on prend un rendez-vous on peut mieux préparer l'entretien, donc c'est pas mal non plus. Et c'est d'ailleurs cette difficulté d'accès pour des personnes qui, comme tout à l'heure la dame qui intervenait en disant qu'elle n'avait pas été reçue au guichet de la CAF, au fond c'est ce qui a conduit, quand l'État a construit ces maisons France Service, à dire qu'il fallait dans ces maisons France Service avoir un accès sans prise de rendez-vous. Que bien sûr, il pouvait y avoir des prises de rendez-vous, mais que le mécanisme pour bénéficier du label des France Services, c'était un label qui nécessitait de ne pas avoir, de pouvoir entrer sans rendez-vous et avoir la garantie qu'on ressortait avec un début de réponse à la question qu'on se posait.
Mais ça peut être aussi à double tranchant, cette histoire de rendez-vous, parce qu'effectivement, le service public n'est plus un endroit où l'on se rend naturellement au moment où on en a besoin. Et ce que vous disiez sur France Service, certes, c'est une solution, mais comme le disait cette femme qui bosse très bien et avec beaucoup d'enthousiasme, moi, il y a un moment, je ne suis pas technicienne et de la CAF et des impôts, etc. Donc, en fait, le relais, il n'est pas pris.
Alors, j'ai pas connu cet exemple précis de Guingamp, où on a été à Roubaix. Dans notre tour de France pour rencontrer des équipes d'une maison France Service. Il y avait à l'accueil un conseiller qui était chargé des rendez-vous et puis l'autre qui faisait finalement l'accueil en continu. Donc ça, c'est des modes d'organisation. Et ce qu'on a relevé, nous, là, c'est que les France Service, elles ont quand même... Vous savez, c'est comme quand vous êtes consommateur, vous avez un point relais qui vous donne un accès au service public. Et au fond, c'est France Service, c'est un premier point relais qui n'a pas les réponses à tout. Ça, je reconnais que c'est pas la réponse à tout, mais ça a cette première vertu d'ouvrir une porte. Et ce qu'on dit clairement dans l'étude, c'est que ces maisons France Service, leur grande force et leur efficacité, c'est quand derrière les services suivent bien. Et ce qu'on a, nous, observé à Roubaix, c'est que derrière, les services suivaient bien et que, en effet, la maison France Service ouvrait bien les portes nécessaires.
Okay. Eh bien, merci Mélanie Villiers, merci beaucoup. Service public, la grande fracture des territoires, c'était un reportage de Wafia Kenich, merci à vous. Merci. Cette émission a été réalisée par Annie Brault, elle est à réécouter si vous le souhaitez autant de fois que vous le voulez sur franceculture.fr.